Radio Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Journal du Matin dont voici les titres. Les députés nationaux et sénateurs reprennent le chemin de l'hémicycle tout à l'heure après 3 mois de vacances parlementaires. Cette session ordinaire de mars prévue par la Constitution est traditionnellement consacrée au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. L'autonomisation financière des femmes est au cœur des débats en ce mois dédié à la promotion de leurs droits à Beni au Nord Kivu. Serait-ce un simple slogan ou véritable solution pour renforcer la stabilité des ménages et de la communauté? La réponse dans quelques instants. L'hôpital Kalembelembe débute ce lundi 16 mars les consultations pour les opérations gratuites en faveur des enfants démunis souffrant de malformations anorectales. Pour en parler, nous recevons Dr Noël Dodo, chef de service de chirurgie pédiatrique de cet établissement hospitalier, qui donne quelques détails. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal parlé du matin. Les députés nationaux et sénateurs reprennent officiellement le chemin de l'hémicycle. C'est lundi 16 mars à Kinshasa, après 3 mois de vacances parlementaires. La session ordinaire de mars s'ouvre dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans l'est du pays, mais aussi par plusieurs dossiers politiques et économiques majeurs. Parmi eux, la ratification d'accords récemment conclus par le gouvernement et l'évaluation de l'exécution du budget de l'État. Plus de détails avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
La session ordinaire de mars prévue par la Constitution est traditionnellement consacrée au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement. Au menu notamment, l'évaluation trimestrielle de l'exécution du budget de l'État ainsi que les traditionnelles questions orales et autres mécanismes de contrôle à l'endroit de l'exécutif. Cette session intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Dans l'est du pays, plusieurs territoires du Nord Kivu et du Sud Kivu restent occupés par la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, tandis que les rebelles ADF poursuivent leurs attaques dans les régions de Beni Lubero au Nord Kivu et à Ituri. Autre dossier attendu, l'examen des projets de loi portant ratification de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda, ainsi que de l'accord stratégique signé entre la RDC et les États-Unis. Ces textes sont déjà déposés au Parlement par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Pour la chef du gouvernement, il est important que les élus du peuple examinent ces accords afin d'en informer la population et d'accompagner les efforts en faveur de la paix et du développement du pays. Par ailleurs, cette session s'ouvre alors que les débats autour d'une éventuelle révision de la Constitution refait surface dans la classe politique congolaise, un sujet qui pourrait également alimenter les discussions entre parlementaires.
Et puis, Modeste Bahati Lukwebo bénéficie d'un nouveau bail de 5 ans à la tête de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC. Les cadres, responsables et militants de ces partis membres de l'Union sacrée de la Nation ont levé cette option ce dimanche 15 mars à l'issue du 4e congrès ordinaire tenu à Kinshasa. Au cours de cette activité, l'autorité morale de l'FDC a vertement accusé le régime de Kigali de soutenir la rébellion qui couvre la partie est de la RDC avec ses supplétifs de l'AFC M23. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le 4e congrès de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, a tenu toutes ses promesses dans la capitale. En marge de cette rencontre, les cadres et militants de cette formation politique ont renouvelé leur confiance à leur autorité morale, Modeste Bahati Lukwebo. Le secrétaire général Guy Richard Malongo affirme engager toutes les soutiens du parti au travail afin que l'AFDC mérite pleinement son statut de deuxième force politique au sein de l'Union sacrée de la Nation.
Notre école du parti pour pouvoir définir toutes les tâches et permettre à ce que toutes nos structures puissent permettre de bien travailler et mériter toujours notre place qui est de la deuxième force de la République démocratique du Congo.
Dans sa prise de parole, Modeste Bahati Lukwebo a une nouvelle fois condamné le régime de Kigali qui, malgré la signature de plusieurs accords, continue de soutenir la rébellion dans l'est de la RDC.
J'exprime toute notre compassion et toute notre douleur à nos compatriotes de l'est, à ceux de l'ouest et aux déplacés de guerre, tout en condamnant une fois de plus l'agression de notre pays par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda.
Il a par ailleurs exprimé son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa quête de la paix et de la restauration de la sécurité à travers les pays. Plusieurs partis politiques membres de l'Union Sacrée ont rehaussé de leur présence ces congrès, notamment l'IDPS Kibasa Maliba et le parti lumumbiste unifié Palu, l'aile pilotée par Willy Makiachi.
Ce journal se poursuit dans la province de la Tchopo où nous annonçons la fin de la crise au sommet de la province. Réuni à Kinshasa du 8 au 12 mars, le gouverneur des provinces et le président de l'Assemblée provinciale ont officiellement scellé leur réconciliation. Après ces mois de tensions et de procédures de déchéances croisées, les deux personnalités ont signé un acte d'engagement historique pour mettre fin au blocage du développement provincial. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Ce forum de la Concorde s'est tenu à l'hôtel Hilton sous l'initiative du ministre Doudou Fouamba. Il a réuni le gouverneur des provinces, Paulin Lindongodia, le président de l'Assemblée provinciale, Mathéus Kanga, ainsi que l'élite politique de la Tchopo. Objectif, examiner les causes des tensions persistantes qui entravent le fonctionnement harmonieux des institutions. Au terme de cet examen, le constat est sans appel. Ces querelles intestines ont freiné les attentes de la population. En même temps, elles plombent le dynamisme de développement de la province. Désormais, la priorité est à l'harmonie. L'accord prévoit un mécanisme de résolution des conflits en trois étapes. Le dialogue direct entre le bureau de l'Assemblée, le gouverneur et son vice, l'arbitrage national par des élus et ministres originaires de la Tchopo en cas de blocage persistant, enfin une période d'observation pour tester la solidité de ce nouveau climat de confiance. En plaçant la cohésion institutionnelle au-dessus des ambitions personnelles, les leaders de la Tchopo espèrent enfin relancer le dynamisme économique de la province. Reste à savoir si cette paix de Kinshasa résistera à l'épreuve du terrain à Kisangani. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Rendons-nous au Nord Kivu. Depuis l'occupation de Goma par la FCM-23, il y a plus d'une année, la ville de Beni est devenue le chef-lieu provisoire de cette province. Plusieurs services provinciaux de l'État y ont été relocalisés en un temps record afin d'assurer la continuité administrative. Cette semaine, Radio Okapi consacre une série de reportages à la situation de cette ville devenue, malgré elle, centre administratif provisoire de la province. Dans ce premier numéro, nous nous intéressons à la réorganisation de l'administration provinciale. Si celle-ci a permis d'assurer la continuité des services publics, cependant, elle fait face à des conditions de travail difficiles avec des infrastructures et moyens limités. Les détails avec Martial Papimoukeba.
Plusieurs services provinciaux de l'État ont été transférés à Beni depuis l'occupation de Goma par l'AFCM-23. Le gouverneur du Nord Kivu a mis en place l'administration provinciale en fait d'assurer la continuité des services publics. Toutefois, cette installation s'est faite sans moyens suffisants et dans des conditions jugées difficiles par plusieurs sources administratives. Actuellement, le gouvernorat est installé dans un hôtel de la ville, tandis que plusieurs services provinciaux fonctionnent dans des bureaux loués avec des infrastructures limitées, une situation qui complique parfois les travaux administratifs et la coordination des services, indiquent nos sources. Par ailleurs, de nombreux agents de l'État ayant fui Goma en laissa l'air bien derrière et vivent aujourd'hui dans des conditions précaires à Beni. Certains ayant requis l'anonymat plaident pour un accompagnement accru du gouvernement congolais en faveur des provinces du Nord et du Sud Kivu touchées par la guerre liée à l'AFCM-23. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, l'autonomisation financière des femmes est au cœur des débats en ce mois dédié à la promotion de leurs droits. Lors d'une conférence organisée cette semaine à Beni, plus de 500 femmes ont été sensibilisées à cette thématique avec un accent particulier sur l'engagement des familles et la responsabilité partagée, notamment à travers la masculinité positive. Autonomisation financière, simple slogan ou véritable solution pour renforcer la stabilité des ménages et de la communauté. Tentative de réponse dans ce reportage de Marc Marofimbo.
Au cours de cette conférence, plus de 500 femmes ont échangé autour de trois thèmes qui encadrent les activités du mois consacrées à la promotion des droits des femmes. Parmi eux, l'autonomie financière. Pour les participantes, une femme économiquement indépendante contribue davantage à la stabilité de sa famille et de sa communauté. Mais comment ce concept est-il compris sur le terrain? Charline Masika-Wakine, jeune fille de Beni, partage sa lecture.
Le fait de parler de l'autonomisation de la femme, c'est la capacité pour une femme de se défendre ou de réaliser une activité pour en fait se prendre à charge. Parce que, vous savez, l'autonomisation de la femme est un grand pilier qui protège cette femme-là, parce qu'une fois qu'une femme est autonome, ça réduit sa vulnérabilité à la violence.
Mais atteindre cette autonomie exige aussi des actions concrètes, rappelle Ange Maliro.
Je voudrais que nous puissions, nous, en tant que femmes, mais aussi les hommes qui nous accompagnent, nous devons passer par les actes maintenant. On ne doit pas prêcher à l'air. Donc, il faut aller avec les concrets. Au minimum de ce que nous pouvons faire à notre niveau, nous sommes appelés de les faire maintenant.
Outre l'autonomisation financière, les participantes ont également été sensibilisées à la connaissance de leurs droits et à l'importance de la justice, des éléments jugés essentiels pour renforcer la cohésion sociale et contribuer à la consolidation de la paix au sein des communautés. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Retour dans la capitale. Madame Bienvenue Bomachi, ingénieure en hydroélectricité et présidente de la Coalition des femmes entrepreneurs du Congo, a remporté le premier prix du concours Miss Level Up Makutano 2026 avec son projet sur l'installation de micro-centrales hydrauliques utilisant des roues à aubes fabriquées localement pour produire de l'électricité et pomper de l'eau dans les zones rurales. La cérémonie a eu lieu ce samedi 14 mars 2026 à Kinshasa. Bienvenue Bomachi a reçu de main de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi une récompense de 10 000 dollars américains destinée à développer son projet. Elle n'a pas caché sa satisfaction et estime que son projet a été retenu suite à son impact multiforme. On l'écoute au micro de Jean-Marc Matouaki.
J'avais un très bon projet. Déjà, les jours même où on nous avait sélectionnés, il y a mes collègues qui ont dit que madame, tu as vraiment un meilleur projet. Donc, c'était déjà meilleur. C'est un projet qui consiste à la production de l'eau et de l'énergie à base d'une roue à aubes. Une roue que nous pouvons fabriquer localement et on peut trouver ça partout. La roue fonctionne juste avec la force de l'eau, ça n'utilise pas du carburant et c'est vraiment écologique ce projet. Déjà, je suis ravie, je remercie d'abord celui-là même, le créateur, celui qui a créé l'énergie, celui qui a créé l'eau, Yahweh son nom. Tous les projets qu'on a présentés, c'était meilleur, mais si on a choisi ce projet, c'est qu'il y a de l'impact, il y a l'impact économique, il y a l'impact social et surtout il y a l'impact environnemental. Donc nous sommes là pour produire de l'eau et de l'électricité, même dans des villages.
Par ailleurs, devenir une étoile de musique via la batterie, c'est l'objectif visé par Kertis Senga, jeune femme artiste, elle se distingue par l'instrument qu'elle joue avec aisance. À l'occasion de ce mois dédié à la promotion des droits des femmes, elle invite ces dernières à embrasser les professions de leur choix sans craindre les jugements de la communauté. Vanessa Kongolo l'a rencontrée lors d'une prestation à Kinshasa.
Au cours d'une prestation de son orchestre, nous apercevons une jeune dame jouant à la batterie. Toute souriante, Kertis Senga nous raconte ses débuts.
J'ai commencé depuis l'enfance à 8 ans. J'ai commencé à jouer au tam-tam à l'église. Et du coup, un jour comme ça, il n'y avait pas de batteur. Du coup, je suis montée et j'ai commencé à jouer depuis là. Je joue maintenant.
Face au regard de la communauté, Kertis ne recule pas. Elle persévère pour exercer les métiers qu'elle aime.
Ouais, ça se passe pas mal. Malgré les jugements, il y a d'autres personnes qui disent que non, c'est le métier des hommes. Toi, une femme, tu peux pas faire ça et tout. Mais moi, vu que c'est inné, c'est ma vocation, j'aime ça. Ça me fait d'abord plaisir de jouer. Quand je joue, je suis très contente, très joyeuse. C'est un truc que j'aime vraiment exercer. Je me suis habituée, donc j'ai fait de ça ma profession en fait.
La jeune artiste veut avoir une renommée grâce à son instrument.
Organiser des concerts, faire des festivals, donc être renommée dans ce que je fais, être une star, mais à la batterie. Comme il y a des stars, chanteurs, moi maintenant je veux être une star à la batterie. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas des instrumentistes élevés.
Outre la musique, Kertis étudie la photographie.
Dans le Haut-Katanga, le gouvernement provincial a apporté samedi un soutien financier aux familles des deux élèves ayant tragiquement perdu la vie au cours d'un accident de circulation. Et un troisième élève a été grièvement blessé. Le drame est survenu mardi dernier devant l'école primaire Odari 2 dans la commune Rwashi à Lubumbashi. Rappel des faits avec Paul Munanga.
Le drame est survenu mardi 10 mars à l'heure des sorties de classe. Le directeur adjoint et conseiller pédagogique de l'école primaire Odari 2 à Lubumbashi raconte qu'un chauffeur au volant d'une Jeep de marque arrière, roulant à vive allure, a violemment percuté 3 élèves devant l'école. 2 sont morts sur place et un autre est grièvement blessé. Parmi les victimes, 2 enfants d'une même famille. L'un qui est de 3e primaire a rendu l'âme sur les champs et l'autre de première année primaire, âgé de 6 ans, a été blessé grièvement et hospitalisé. Sa prise en charge médicale est assurée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. La troisième victime, issue d'une autre famille et également de première année, a succombé sur les champs à la suite de cet accident. Le chauffeur, auteur de ce drame, a tenté de prendre le large, mais il a été appréhendé avec l'aide des motocyclistes qui l'ont pourchassé, indique le directeur adjoint de cette école. Le dossier est entre les mains de la justice. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La rumeur a enflammé la toile tout au long de la journée de ce samedi 14 mars 2026. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou serait mort. Relayé massivement sur les réseaux sociaux, l'Infox a fait le tour du monde avant d'être balayé par une mise en scène pour le moins inhabituelle ce dimanche. Le premier ministre israélien s'est affiché dans un café, une tasse à la main, pour prouver qu'il est bien aux commandes. Un démenti sous forme de vidéo diffusée par son bureau qui n'a pas calmé les ardeurs de Téhéran, bien au contraire.
L'invité.
L'hôpital Kalembelembe débute ce lundi 16 mars des consultations pour les opérations gratuites en faveur des enfants démunis souffrant de malformations anectorales. Invité de Radio Capi, Dr Noël Dodo, chef de service de chirurgie pédiatrique de cet établissement hospitalier, indique que cette campagne qui bénéficie de l'appui financier de l'ONG Vinmar attend plus de 50 enfants. Il précise également que les consultations s'organisent pendant 10 jours, tandis que les interventions chirurgicales proprement dites commenceront le 29 mars et se clôtureront le 30 avril 2026. Docteur Noël Dodo s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour docteur Noël Dodo.
Bonjour.
L'hôpital pédiatrique de Kalembelembe lance ce lundi 16 mars les consultations pour les opérations gratuites des enfants démunis. En quoi consiste cette opération?
En général, ce sont des interventions de la chirurgie digestive et viscérale. Donc, nous entendons par la chirurgie digestive tout ce qui intéresse les tubes digestifs. En termes simples, les intestins. En gros, c'est plus les enfants qui naissent sans anus. Dès les premiers jours de la vie, on fait une intervention qu'on appelle stomie. On fait sortir l'intestin à partir de la paroi de l'abdomen. Donc, au niveau du ventre, l'état de lui faire une plastie de l'anus. Donc, ce sont des enfants qui ont ce qu'on appelle la malformation anorectale. À part ça, il y a d'autres qui font des constipations à répétition. Dès le bas âge, il fait des constipations. Il se présente avec un gros ventre. La plupart des cas, on les appelle la maladie de Hirschsprung. À part ça, il y a des enfants qui ont été opérés en urgence dans différentes structures pour soit une maladie qu'on appelle la péritonite, c'est-à-dire un intestin qui était perforé dans le ventre, ça créait des puits et on l'a opéré avec mauvais état. On prend les intestins, on fixe ça au niveau de la paroi, qu'on appelle également stomie, pour reconstituer la continuité des intestins. Ces enfants-là sont aussi concernés. Il y a des enfants qui font des hernies, les enfants qui ont de cryptochondries et autres, de maladies de la paroi du type digestif.
Vous débutez les consultations, mais quand commencent exactement les interventions chirurgicales?
Parmi ces enfants-là, on doit faire des examens qui sont aussi pris en charge. Et après les 10 jours, à partir du 29 mars, pendant 3 semaines, nous allons faire maintenant les opérations chirurgicales.
Cette campagne est conçue pour quelle durée?
Si nous prenons les tours, c'est pour une durée tout au plus de 45 jours. Donc ça fait à peu près un mois et 15 jours, donc du 16 mars jusqu'au 29-30 avril.
Vous estimez intervenir en faveur de combien d'enfants au total?
Au total, nous allons prendre au moins 50 enfants de maladies graves. Mais ce qui est vrai, ceux qui ne seront pas opérés, on pourra le prendre encore à une deuxième phase de la campagne qui va se passer entre fin mai, première quinzaine de mois de juin. Donc encore 30 jours. Donc on va prendre une partie pendant cette campagne et puis une autre partie qui va rester probablement fin mai 2020.
Docteur Dodo, Noël, bénéficiez-vous de l'appui de quelques partenaires dans la mise en œuvre de ces programmes?
Effectivement, nous avons une ONG qui est basée à Lubumbashi, au Katanga, qui est une fondation qu'on appelle Fondation Vinmark. C'est vraiment cette fondation-là, en collaboration avec le ministère provincial de la ville de Kinshasa, qui prennent en charge tout ce qui entre en jeu pour organiser toutes ces interventions chirurgicales.
Si ce n'est pas un secret, à combien s'élève les coûts de cette activité?
Je pense que ça peut être aux alentours de 30 000 à 50 000 dollars.
En marge de cette campagne en faveur des enfants, avez-vous un message à lancer à tous ceux qui vous suivent sur Radio Okapi?
Particulièrement, nous voulons lancer le message, surtout à nos enfants qui sont nés sans anus, qui sont partout au pays, et particulièrement aussi tous les enfants qui sillonnent la vie de Kinshasa avec les intestins qui sont au niveau du ventre et que les gens demandent de l'argent par-ci, par-là pour que ces enfants-là soient aidés à être opérés. On peut nous diriger tous ces enfants-là qui trimballent dans la vie de Kinshasa, qui cherchent le moyen pour être opérés. C'est l'occasion pour que tous ces enfants-là nous viennent à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe pour qu'ils soient opérés gratuitement.
Docteur Noël Dodo, nous vous disons merci.
Oui. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité.
C'était notre invité, le docteur Noël Dodo, qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parler, coordonnée et supervisée par Jules Mystère Bilandan Koumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.